Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde, signent de gros contrats, écœurent pas mal de monde et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants.
Bonjour à tous et bienvenue à ce 10e podcast des Dérangeants. 10e quand même, déjà, ça avance vite, tabarouette. Marie-Claude Duquette, bonjour.
Bonjour.
Il y a avec nous Noah Redler aussi.
Hey, bonjour Pat.
Et Alex Mancy.
Salut Pat.
Inutile de dire que vous êtes nos trois favoris, c'est pour ça qu'on vous a choisi pour fêter le 10e podcast.
Ah, c'est sûr. Clair. Avec notre animateur préféré.
Ah, ben là, vous n'aviez pas le choix. C'est ça, il y en avait rien qu'un quand même. Aujourd'hui, quand même, un super beau programme. Je vous le dis tout de suite, on va recevoir un invité vraiment intéressant. Un gars, donc, qui a fondé l'entreprise C'est beau, et qui s'appelle Raphaël Ricard. On va avoir un débat aussi sur les bâtisseurs versus les repreneurs, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières donc d'avoir une entreprise, de partir son entreprise, d'être à la tête d'une entreprise. On peut la bâtir, on peut l'acheter. Je suppose qu'il y a des avantages, il y a des manières d'être différentes, on va s'en parler tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va débuter bien sûr avec nos coups de cœur et nos coups de gueule. Je débute avec toi, Marie-Claude.
Je vais aller avec un coup de cœur, c'est le printemps. Ça fait-tu du bien après un long hiver? Moi, ça me redonne du moral, tout le monde.
Ah oui, le gros soleil, ça fait beau dehors. Est-ce que tu es allé promener ce week-end?
Ouais, ben moi, avec mon chien, mon acolyte Arthur, on se promène à tous les week-ends. Oh. Fait qu'on range les skis, puis...
Parle pas de ton chum de même, c'est pas fin.
Mais es-tu du genre à être un peu affecté par, mettons, la dépression saisonnière?
Moi, beaucoup. Honnêtement, janvier-février, j'ai trouvé... Ben c'est sûr qu'il y avait une conjoncture de plein d'événements, mais j'ai trouvé particulièrement difficile au point que je me suis pris un billet d'avion. Je suis partie 5 jours en Floride juste comme pour aller me chercher un petit peu de tanne puis me faire à croire que l'été s'en venait. Fait que non, moi, le printemps, je l'accueille de bon pied. Okay. Puis autant que j'aime le snowboard et le ski, que je suis contente de les ranger.
Noah?
Je continue avec mes coups de cœur techno. Tout récemment, Google a dévoilé leur service de streaming de jeux de vidéo qui s'appelle Stadia. On peut dire que c'est le Netflix de jeux de vidéo. C'est vraiment une plateforme en ligne sans aucune console requise. Ce que je trouve ça intéressant, c'est que je vois surtout une opportunité pour le grand nombre de boîtes de développement de jeux de vidéo indépendants d'avoir accès à une plateforme de distribution pour leurs projets qui nivellera le terrain pour l'industrie de jeux de vidéo avec les gros. Alors les gros, ils focusent beaucoup sur les consoles, les Sony PlayStation, les Nintendo parmi d'autres. Mais si tu es un développeur de jeux de vidéo indépendant, il faut vraiment penser à la distribution. Et ce type de plateforme leur permettrait de vraiment mettre leurs jeux en ligne un peu comme un App Store et d'avoir accès à une large clientèle pour tester leurs jeux.
Et ça s'appelle comment, tu me dis?
Stadia.
Stadia, ouais. OK, parfait. Et ça fonctionne comme Netflix, tu payes, mettons, 10$ par mois ou je ne sais pas combien?
C'est exactement l'idée, ouais.
OK. Puis moi, je suis un peu niaiseux là-dedans, mais tu dis, pas besoin de console, c'est comment ça...
Juste sur ton ordinateur directement.
Oui, okay, okay. Juste sur l'ordinateur, sur ton tablette, cell phone, laptop. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça se transfère de ton portable à ton laptop sans délai. Je suis sur mon téléphone, je rentre chez nous, je vais directement à mon laptop et ça continue aux mêmes places où j'étais et il y a sans arrêt. Alors ça, c'est quelque chose d'assez incroyable en termes technologiques.
Ben oui.
Et aussi de juste vraiment ouvrir le marché, de rendre accessible tous ces jeux au grand public. Regarde, c'est tellement cool. Moi, un ancien gamer dans l'ère de Nintendo, je vais reprendre les jeux de vidéo.
Ça a évolué hein, depuis ton temps.
Ah oui, les Super Mario Bros. sont moins super.
Ça fait longtemps. Hein. Il y avait des cheveux dans le
oui, temps. Ah oui. Alex, toi, coup de cœur ou coup de gueule?
Un petit... je fais tout le temps des coups de gueule hein, de ce temps-ci, mais écoute...
Vas-y, fais-toi confiance.
Des jeunes hockeyeuses qui ont été obligées de laisser leur place à une équipe de garçons parce que ceux-ci... étaient plus populaires dans un tournoi, ils ne pourront pas diffuser leur finale. Donc ça, je trouve que c'est un peu aberrant. Je trouve que les filles dans le sport sont souvent mises de côté. Puis quand on regarde juste l'équipe canadienne de hockey versus au niveau féminin versus les gars, c'est carrément deux mondes. Les filles doivent conjuguer avec des emplois parallèles. Ils peuvent pas s'entraîner autant. Je trouve que en 2019, on devrait peut-être niveler ça. Là. Au Canada, on produit des athlètes extraordinaires au niveau féminin. puis souvent on les met de côté là, sans raison.
Parfait. Merci beaucoup pour vos coups de cœur, coups de gueule. Dans quelques instants, on reçoit donc cet invité dont je vous parlais tout à l'heure, le fondateur de Cebo, Raphaël Ricard.
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
L'entrevue de la semaine vous est présentée par le programme HOP du groupe Millésime. Votre équipe grandit. Profitez d'un accompagnement sur mesure dans vos défis de recrutement. Visitez millésimehop.com.
On accueille aujourd'hui celui qui a fondé Cebo en 2012, qui est maintenant une vitrine virtuelle absolument exceptionnelle pour différents artisans québécois. Mesdames et messieurs, Raphaël Ricard est avec nous ici aujourd'hui. Oui!
Incroyable.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue, Raphaël. Merci d'être là.
Ben, ça me fait plaisir. Vraiment content d'être là. Merci de me recevoir.
On va commencer par situer un peu les gens. Cebo, dans tes mots, qu'est-ce que c'est exactement?
Cebo, c'est un brand, c'est un lifestyle bien fait, en fait. C'est un lifestyle canadien, plus québécois, en fait. Non, on va commencer par québécois. C'est un lifestyle québécois. C'est des objets pour la maison, pour le quotidien, qui passent autant de la cuisine à la garde-robe jusqu'aux soins. Tout est fait par des artisans locaux. C'est bien fait, puis c'est équitable, etc. Ouais.
C'est parti comment, au juste? La rumeur veut que ça soit parti avec des vieux skates que tu trouvais dans des poubelles? Ou...
Ouais, en fait, quand ça a commencé, moi, c'est que j'étudiais en philosophie. Fait que clairement, je savais pas vraiment qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Puis, je suis dans un skate shop la fin de semaine, puis je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui venaient se racheter un nouveau skate parce que le dessin en dessous était usé. Fait que clairement, le bois est encore bon. C'était vraiment juste une question d'esthétisme. Puis là, en étant étudiant, en étant pauvre, tu prends cette matière première-là, je me suis dit, ah, je vais le couper, je vais me faire un petit skate moi-même. Puis, de fil en aiguille, j'ai des amis qui m'ont demandé, hey, puis tu me fais un petit cruiser comme tu t'étais fait. Puis c'est ça, de fil en aiguille, je suis rentré dans 8 magasins. Littéralement, aller chercher les poubelles, à leur donner une deuxième vie, puis aller revendre dans ces mêmes magasins-là, transformés. Puis vite, je me suis rendu compte que c'est vraiment dur de justement mettre sur une tablette un produit que t'as fait de A à Z, qui a été fait localement, qui a été fait pour des bonnes raisons, à côté d'un produit d'un commerce plus international, qui est pas mal le même prix. Donc, je me suis rendu compte que la compétition est un peu déloyale. Fait qu'il faut que les produits locaux, on les rassemble ensemble. Fait qu'on a fait un site web, puis on s'est dit, bon, j'ai des amis qui font des bougies, j'ai des amis qui font des produits pour la barbe, j'ai des amis qui font un peu de tout. On va faire un site web, on va faire une belle vitrine, puis ça a commencé comme ça.
Je suis curieux, pour toi, pourquoi les produits locaux sont tellement importants? Est-ce que c'est une question environnementale? Est-ce que c'est une question sociétale? Est-ce que tu tripes sur la créativité québécoise? C'est quoi les valeurs qui t'amènent vers ce type d'idée?
Clairement, c'est des questions environnementales. Je pense que c'est primordial, la consommation locale, pour toutes ces raisons-là. Dans le sens où, quand tu achètes local, c'est un investissement que tu refais dans ta propre communauté. C'est de l'argent qui reste ici. Juste quand, si je reprends l'exemple du skateboard, les produits auxquels j'étais en compétition, c'est des produits qui ont fait 4 5 000 kilomètres de bateau pour arriver ici. Fait que c'est tellement de pollution, c'est incroyable. Puis quand ça m'a ouvert les yeux à quel point c'était dur de vendre mes produits à côté de produits d'un commerce international, je me suis dit, hey, il y a tellement de talents autour de moi, il y a tellement de petites entreprises qui devraient pouvoir rayonner puis qui devraient pouvoir exister plus qu'en ce moment. Fait que ouais, c'est autant pour des raisons environnementales qu'économiques, que sociales. Je pense que c'est vraiment important de consommer à proximité ce qu'on a, autant la bouffe, parce que clairement, c'est ça qui est plus facile en ce moment. Les foodies, il y a tellement de restos, les épiceries, le vrac, le bio, mais ça va aussi dans une autre partie de notre consommation, qui est les objets. Ce qu'on utilise au quotidien, c'est pas juste la maison, les autos, mais toutes les petites affaires qu'on achète puis qu'on rachète, parce que finalement, on n'achète pas nécessairement peut-être de la qualité, mais plus du beau. Puis c'est ironique, vu que mon truc s'appelle C'est beau. Oh, mais, ouais. Mais nous, c'est ça, justement. On voulait que ça soit beau. Puis qu'en plus, une fois que t'es dans le site web, puis tu t'es pointé dans un de nos magasins, puis tu trouves ça design, tu trouves ça beau, ben tu dis, OK. Puis en plus de ça, c'est local, puis c'est fait ici, là. C'est vraiment...
C'est ça, tu dis que t'as ton site Internet, là, t'as pignon sur rue. Faut que t'en vendes des chandelles, puis des bijoux
en des bougies,
pour puis avoir
des
pignon sur rue, là, je veux dire... Coûte cher de loyer, là, avec ouais. Le payroll et tout ça. Est-ce que c'est un bon move, tu penses?
Vraiment. Honnêtement, au début, j'ai fait ma première erreur que j'ai faite en me lançant, c'est que j'étais dans mon salon, je me suis dit, il me faut un local pour mon site web pour entreposer. J'ai tout de suite été prendre un petit local. Puis là, c'est là que tu te rends compte, OK, le coût fixe là, d'un loyer, ça peut être lourd à la fin du mois. Mais par contre, ça m'a permis de réaliser quelque chose, c'est qu'à toutes les fois que je faisais des ventes en ligne, les gens recevaient leur facture, ils voyaient l'adresse Okay. Où est-ce que c'était? Il y a bien du monde à Montréal qui faisait « Hey, c'est pas si loin que ça, je peux y aller en personne. » Fait qu'ils se pointaient à nos bureaux. Puis c'est beau, à ce moment-là, c'était deux gars en chess l'été quand il faisait 40 degrés qui emballaient des commandes puis qui c'était pas vraiment sérieux. Fait que les gens, quand ils ouvraient la porte parce qu'ils se pointaient littéralement à l'adresse, ils étaient comme « What the fuck? C'est quoi? C'est beau. c'est beau le site web, ça, c'est ordinaire. Ouais, » Fait que là, je me suis dit « OK, il y a quand même du monde qui veulent se déplacer. »
T'avais
qui
pas
veulent
un
toucher.
Beau chest?
Le chest était correct. Il était pas super, honnêtement, là. Ça, c'était moins choquant. Mais ouais. Puis c'est là que j'ai vu quand même que les gens veulent se déplacer. Ils veulent quand même voir, ils veulent toucher les produits. Ils veulent quand même vivre une expérience. Fait que là, finalement, on s'est dit, bon, ben, tant qu'avoir un bureau, on va louer un local, un magasin, où est-ce qu'on va être capable de faire notre bureau aussi? Fait qu'on veut, on va l'amortir d'une certaine façon. Où est-ce que on était vraiment chanceux? C'est vraiment le location, location, location. Là, on s'est dit, on va aller où est-ce qu'il y a du passage. Puis tout le monde me disait Mont-Royal, parce que le premier magasin était sur Mont-Royal. Tout le monde était comme, hey, c'est mort, Saint-Denis, le commerce de détail, ça ferme, tout ferme. Puis non, pas du tout, là. Il y a du monde qui marche l'été, là. C'est rempli. Il y a des terrasses. Il y a des touristes. Il y a des Français. Il y a beaucoup de Français.
Ouais, c'est encourageant, ton truc.
Ouais, c'est ça.
Pour la rue Saint-Denis, en tout cas, là.
Ouais, dans cette artère-là. Ouais. Puis, ce qui est vraiment le fun, c'est que oui, il faut en vendre des bougies, mais on en vend des bougies. C'est ça l'affaire. Surtout aussi, on voit nos pics, là, Noël, dans les fêtes, Saint-Valentin, fête des mères, fête des pères. Ça fait juste plaisir aux gens qui marchent, aux touristes, de pouvoir trouver un produit fait au Canada sans que ça soit, avec un castor dessus, une feuille d'érable ou une feuille de lys, ou tu sais, que ça soit pas quétaine. Ce soit un bel objet qu'ils achèteraient n'importe où sur Internet, sur d'autres sites web ou sur des choses plus internationales. Fait que c'est le fun. Puis même en s'installant dans notre quartier, peut-être trois mois après, il y a Baltic Club qui est venu s'installer juste à côté parce qu'il y a un local qui s'est libéré, qui a à peu près la même clientèle que nous. Fait que c'est là que tu vois que pour revitaliser un artère commercial, ben c'est en apportant des petits commerces comme ça. Oh, il y en a d'autres qui vont naître à côté puis qui vont être intéressés.
Complètement.
Je suis curieux, c'est quoi le profil de votre clientèle? Est-ce que c'est majoritairement les touristes? Est-ce qu'il y a des Québécois qui veulent absolument des produits québécois? Parce qu'il doit avoir un prix un peu élevé comparé à quelque chose que j'achèterais au Dollarama ou Walmart. Une bougie, c'est une bougie, mais c'est quoi le point qui m'amène à acheter quelque chose du Québec?
Ben en fait, c'est ça, c'est surtout l'histoire derrière le produit, je pense. Puis nous, notre clientèle, c'est vraiment le fun parce qu'en ayant commencé en ligne, on a vraiment créé plus un brand. Moi, je me suis jamais vu vraiment comme un détaillant. Puis c'est peut-être pour ça que j'étais un peu naïf, puis je me suis lancé là-dedans, puis finalement, ça va bien. C'est que je me vois vraiment comme une identité. Avec le en ligne, on a été développé les gens qui voulaient vraiment que ça soit écrit « c'est beau ». Fait qu'ils veulent les produits, ils veulent les tissus, ils veulent les vêtements, c'est beau. Les gens physiques, par exemple, physiques, qui viennent à nos points de vente physiques, ils veulent un produit local de proximité. Ils veulent avoir une histoire. Ils veulent que le vendeur dise « Hey, cette bougie-là, ben, on parle beaucoup de bougies, on vend d'autres choses.
» C'est en train de dire, ouais.
C'est ça. Mais on est capable de dire d'où est-ce qu'elle vient, cette bougie-là. Elle va pas polluer, il y a pas de parabènes dedans. C'est une cire de soya, whatever. T'sais.
Donc, en quelque part, les gens qui consomment, c'est beau. C'est un peu un geste social. Ils font un statement jusqu'à un certain point.
Ben oui, c'est sûr que c'est un statement puis que c'est un investissement aussi qu'ils font dans leur... Dans leur
propre collectivité. Là.
Dans leur collectivité, ouais. Exactement. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'on voit beaucoup de clients sur Mont-Royal. Puis on a aussi un point de vente avec Frank & Oak dans le centre-ville, pas très loin d'ici en fait. Puis il y a un sur Beaubien qu'on vient juste d'ouvrir, qui est notre bureau. Puis on se rend compte que tous les gens qui viennent, il y en a que c'est des carriéristes qui ont des business. Puis eux autres, ils ont des employés. Puis à Noël, ils sont tannés de donner un mug puis un vieux crayon avec le nom de la business dessus. Fait qu'ils viennent nous voir puis ils font « Hey, montre-moi un paquet cadeau fait 100% ici. » Puis en plus, ce qui est le fun, c'est qu'on peut fournir l'histoire. C'est de où que ça vient, ce produit-là? C'est qui l'a fait? Fait que ces employeurs-là, en donnant ces cadeaux-là, ils donnent pas juste une bébelle, ils donnent une histoire, ils donnent un savoir-faire. Puis nous, on veut vraiment se concentrer sur ça, sur la transmission du savoir-faire, puis aussi sur la démocratisation des produits faits ici. Ça devrait juste être normal de consommer sa bougie du Québec, puis pas qui a fait 4000 km de bateau, puis que c'est
trop... Mais tu trouves pas que des fois, quand on dit qu'on achète un produit québécois, faut tout le temps que ce soit... C'est tout le temps pas mal plus cher que les produits mainstream. Pourquoi c'est comme ça? On pourrait pas arriver à avoir des produits qui sont plus prêts, puis peut-être les gens l'accepteraient plus. Parce qu'en ce moment, quand j'écoute ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a une partie de la clientèle qui achète le lifestyle, tu sais, au niveau social, c'est le brand, c'est bien vu d'acheter j'achète québécois, mais est-ce qu'ils le font vraiment pour les bonnes raisons ou c'est pour bien paraître?
Je pense qu'il y a un peu des deux, puis je crois aussi que, puis moi j'ai tout le temps focusé là-dessus, mon brand en soi, notre branding est pas bâti à 100% sur c'est fait au Québec. On veut que les gens, premier, ils voient C'est beau comme une plateforme design, une plateforme dynamique, que c'est beau, c'est clean, c'est léché, puis ensuite ils se rendent compte, ok, puis en plus c'est fait local, parce que c'est sûr et certain que c'est plus cher au final parce que les gens consomment pas assez de produits faits ici. C'est juste l'offre et la demande, là. Je veux dire, si tout le monde du jour au lendemain, un petit peu comme la bouffe, commence à aller dans leur poissonnier, leur boucherie ou quoi que ce soit, les prix vont diminuer. puis ça va être juste normal de s'acheter. C'est qu'on a été éduqué avec des multinationales, fait que c'est normal de payer pas cher, d'avoir le shipping gratuit pour leur shipper si t'es pas content, puis qu'ils refassent 3000 km, puis je parle beaucoup de 3000 km, je sais pas si où exactement, 3000 km. Mais c'est ça, c'est la base qui est pas normale, de devoir payer pas cher pour des petites affaires que tu peux jeter puis tu peux te racheter. Fait que c'est là que j'essaye de vouloir éduquer les gens, puis en faisant du volume, puis en essayant de grossir ça, c'est que justement, moi, je vais être capable de baisser mes prix. Puis surtout, notre côté vêtements, c'est qu'on est en train de développer aussi en ce moment des basics qui sont faits au Canada, forcément. Puis on est en train de trouver des partenaires pour couper le plus possible d'agents entre le producteur puis le client. Ce qui fait en sorte que je vais être capable éventuellement, puis ça, c'est mon objectif, de vendre un T-shirt, vraiment une belle coupe, là, je veux dire, pas avec un brand dessus, mais à 22$ comme H&M pourrait faire, ouais, mais qui est fait ici. Tu sais. Puis là, aller chercher une grosse...
T'as-tu beaucoup de repeat dans les clients, où les clients vont acheter une bougie une fois parce qu'ils le donnent en cadeau, mais ils en rachètent plus après?
On a beaucoup de repeat, puis ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'ils rachètent pas la même affaire nécessairement. Puis surtout dans les commerces physiques, c'est qu'ils reviennent parce qu'ils ont un autre cadeau à faire, ou finalement, ils ont donné un cadeau, puis ils se rendent compte qu'ils auraient aimé ça le garder. Fait que si on a oui, on a beaucoup. Puis ce qui est le fun, c'est que nous, avec notre staff, c'est qu'on essaye le plus possible de leur donner d'informations sur ce qu'ils vendent. Qu'ils savent c'est qui le nom de l'artisan ou du producteur.
Ouais, c'est important, c'est le core de l'histoire.
C'est le core de notre business, c'est ça. Puis les gens, justement, qui ont eu cette histoire-là, ça leur tente des fois juste de repasser pour aller voir ce qu'il y a de nouveau, puis d'apprendre l'histoire de ce qu'il y a de nouveau. T'sais. Même pas nécessairement pour acheter, mais juste revenir, jaser.
Fait que dans le fond, c'est
une expérience, au lifestyle. Exact, c'est une expérience, le physique, le magasin, puis sur le web, après ça, les produits plus.
T'as dit tout à l'heure que t'étais en philo au départ.
Ouais.
Puis il y a un paquet de parents qui sont parfois un peu inquiets lorsque leurs enfants s'en vont dans des, entre guillemets, dans des voies peut-être un peu moins à succès. Qu'est-ce qui a fait que le gars qui est en philo a fini par s'en aller comme ça en entrepreneuriat, visiblement avec succès? Comment ça s'est passé?
Je suis vraiment arrivé là-dedans comme un chien dans une allée de quai, là, dans le sens où j'avais aucune base en business. Toutes les erreurs qu'on peut faire, je les ai faites. Puis moi, j'y allais vraiment avec l'idée d'être un artisan. Puis vu que j'avais vu un petit peu comment ça se passait, puis le problème était où, je me suis dit, je suis un artisan, puis je veux y aller à la base du problème, puis le régler. J'ai vraiment appris au fur et à mesure. Puis toutes les étapes de la construction d'une entreprise, de l'ouverture d'un magasin, quoi que ce soit, j'essaye tout le temps de mettre le plus les mains à la pâte pour qu'éventuellement, quand ça, ben, c'est ça notre but, qu'il y ait une croissance, c'est que je sache exactement comment chaque partie fonctionne. Fait que même nos magasins, c'est moi qui ai fait de la construction avec mes partners, mais on a refait les murs, on a tout fait. Fait que je sais comment ça fonctionne. Quand on a choisi notre POS, on n'a pas choisi le bon début, on n'a pas choisi notre bon système, notre bon terminal de vente. Fait que ça nous a coûté cher après un Noël passé. Bon, mais parfait, on va tout réétudier, on va le refaire. Fait que j'ai vraiment parti de zéro, on va dire ça comme ça. Fait que ça a pris un petit peu plus de temps. J'ai l'impression que si j'avais peut-être été au HEC ou whatever, j'aurais peut-être fait en un an et demi ce que j'ai fait en 3 ans. Mais finalement, je le regrette pas du tout parce qu'au contraire, je suis un petit peu plus... connecté, un petit peu humain, je vais dire, dans ma façon de procéder avec mes fournisseurs, avec les employés, avec ma vision un petit peu de la business. Fait que je me sens un petit peu plus comme terre à terre, si on veut, même si je suis quand même très chiffre, ce que j'étais pas avant.
Ouais.
C'est parce qu'il faut l'être.
Et t'avais pas de complexe en commençant, t'avais pas cette peur-là, des fois, les artistes, excusez-moi l'expression, de se faire fourrer par ceux qui connaissent vraiment ça.
Ben, pour être entrepreneur aussi, je me rends compte qu'il faut être un peu, avoir la tête des nuages, là. Fait que je me suis pas tant posé de questions, j'ai juste foncé, puis toutes ces craintes-là, j'ai ignoré. Parce que c'est sûr que si j'écoute le monde depuis le début, OK, j'aurais pas fait de site web, j'aurais pas juste vendu de produits québécois parce que c'est pas rentable, j'aurais pas ouvert de magasin sur Mont-Royal qui m'a permis de faire approcher par Frank & Oak pour aller ouvrir avec eux un petit point de vente. J'aurais pas ouvert sur... Tu sais, j'aurais rien fait. Ouais. Fait que j'essaie de focusser sur ce que moi, je sens qui est bon, puis de forcément bâtir une entreprise avec juste des produits qui sont sourcés ici, qui sont faits pour les bonnes raisons.
Tu parles d'erreurs, tu sais, on en fait toutes.
Ben ouais, clairement.
Mais tu sais, tu dirais, qu'est-ce qui t'a aidé à ton succès d'aujourd'hui?
De faire ces erreurs-là.
Ouais.
Ah ouais.
Clairement. Chaque erreur, c'est que ça t'ouvre les yeux sur une nouvelle façon de... Tu te dis, OK, comment j'aurais pu aborder ce problème-là?
Ouais.
Comment j'aurais pu le régler? Fait que là, quand tu vois qu'il y a un autre problème qui s'en vient, bah, t'es déjà alerte à la façon que tu t'es dit, ah, j'aurais pu finalement le problème du passé, j'aurais pu l'aborder comme ça. Là, t'es prête.
Tu parlais de partenaires. Est-ce que c'est des gens comme ça qui ont pu te propulser où est-ce que t'es aujourd'hui aussi?
Oui, ça, c'est sûr et certain.
Parce que c'est ça, t'as pas les mêmes partenaires qu'au début, là.
Non, j'ai pas les mêmes partenaires exactement qu'au début. C'est qu'au début, on était vraiment deux amis. On s'est lancé là-dedans. Puis là, c'est le fun au début, tu sais, dans le sens où t'es excité, tu veux un local, t'es un entrepreneur, là, tu veux te lancer, tu veux un beau produit.
T'es avec ton chum, c'est le fun.
Exactement. Tu sais, on n'a même pas besoin de s'appeler, on va se rencontrer au local, let's go. Mais là, à un moment donné, ça devient sérieux. Là, ça fait un bout que t'as pas de salaire, que tu travailles 40 heures dans un bar pour essayer de payer même pas de payer ton entreprise pour qu'elle te paye pas. Fait que là, ça commence à être un peu lourd. Fait qu'il faut vraiment, tu sais, c'est vraiment pas un sprint, là. L'entrepreneuriat, je pense, c'est vraiment comme un marathon. Fait que c'est sûr, c'est certain qu'on perd des combattants sur le chemin de la guerre. C'est sûr aussi, quand c'est ton bébé, c'est ton entreprise, c'est ton enfant.
Tu dirais que t'as perdu un partenaire, mais t'as perdu aussi un ami.
Ouais.
OK.
Ouais, on pourrait dire ça comme ça.
Puis as-tu hésité, excuse-moi, entre l'entreprise ou l'ami, à un moment donné?
Ben, dans le sens où non.
OK. Parce... Je l'aimais pas tant que ça.
Je l'aimais pas tant que ça. Non, pas du tout. Vraiment pas. C'est vraiment pas ça. C'est que la business, dans ma tête, c'est ce que je voulais faire dans la vie. Okay. Fait que je vais pas renoncer à ce que je veux faire. Puis rendu là aussi, si j'avais été lui, puis j'avais eu d'autres centres d'intérêt ou quoi que ce soit, j'aurais peut-être fait la même affaire que lui, tu sais. Fait que c'est vraiment pas, c'est juste qu'il fallait qu'on sépare. C'était juste meilleur pour tout le monde. Le partenaire en question est plus heureux de son bord, puis je suis plus heureux du mien aussi. Fait que c'était juste win-win. Mais en entrepreneur, c'est comme ça. Quand tu lances en affaire en ami, là, avec des amis, ça peut vite, surtout quand les deux ont pas vraiment de connaissance de business, là, ça peut vite virer au vinaigre. Puis c'est ça, mais non, j'ai vraiment grandi de ça.
Mais c'est ça, t'as cherché des partenaires que là, eux, ils ont quoi, une plus de connaissance business, l'immobilier,
Ben en fait, pour le site web, là, mes partners, c'est deux personnes qui sont deux milieux complètement différents, un qui est en énergie renouvelable, qui lui est plus chiffre, qui est plus encadrement justement pour le côté finance. Puis l'autre personne, c'est vraiment quelqu'un des communications, vraiment quelqu'un qui est excellent pour parler, pour régler des conflits, avec nos fournisseurs, avec les artisans, avec monsieur, madame, tout le monde au quotidien. Fait que c'est ça, je me suis juste bien entouré. Mais à travers ça, il y a aussi les gens avec qui on a fait affaire pour le site web, en étant plus humain, puis en ayant une vision un peu moins business à la base que j'avais. J'ai été chercher 288 qui font des sites web. Puis on avait une entente. Au début, ils m'ont pas dit « Hey, Front, ça va coûter 40 000. Let's go. » Non, on a fait des ententes, puis à gauche, puis à droite. Toutes les banques me disaient non au début, mais il y a eu aussi Julie de la BDC qui a cru en moi dès le départ. Fait que c'est en se mettant amis avec des bonnes personnes puis en s'entourant bien que ça allait évoluer. Mais à travers ça, c'est le bout où est-ce qu'il y a des erreurs, il y a des gens qui s'en vont, il y a des gens qui arrivent, etc. Mais je pense qu'on vit tout un peu ça là, dans une business. Plus j'en parle autour de moi, plus j'ai d'amis qui ont de business, qui ont eu des conflits avec leur partner, qu'il y en a un qui est parti, qu'il y en a un qui reste, mais qui met la vie dure. Okay. Tout le monde a des histoires un peu, j'ai l'impression.
T'as-tu entendu parler de la certification B Corp?
Oui.
T'as-tu cette envie-là d'aller vers ça? Parce que t'aurais le profil.
Le profil, oui. Ben,
puis ça l'emmène du jus aussi. Je trouve que tu te démarques autrement, puis c'est quand même...
De là à y aller, je me suis pas vraiment penché pour dire vraiment que j'ai lu de A à Z, puis est-ce que je veux aller là? Mais comment je pourrais dire ça? C'est que j'ai l'impression que... Moi, je suis un peu extrême dans ce que je fais. C'est tout ou rien. Puis des certifications, des choses comme ça, pas que j'y crois pas, mais c'est que je vois plus les résultats dans le concrètement, moi, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire un changement. Fait que oui, effectivement, c'est très bon de rassembler toutes les entreprises qui ont des bonnes valeurs, qui ont les bons procédés. Mais moi, au quotidien, avec qui c'est beau, c'est que je regarde, je me mets un peu des œillères, là, puis toutes les gens qui disent non ou quoi que ce soit, puis j'essaye vraiment juste de foncer puis de me dire, OK, je vais essayer de changer le commerce de détail d'objets faits localement, tu sais, directement.
Raphaël Ricard, fondateur de C'est beau et humain extrême. Merci énormément.
Extrême.
Extrêmement intéressant d'ailleurs. Merci beaucoup d'être passé dans les dérangeants.
Ben, ça me fait plaisir, un énorme
merci. Merci.
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
Les dérangeants!
Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Fier de donner un élan aux projets les plus inspirants des entrepreneurs du Québec.
C'est maintenant le moment de vous présenter la 7e start-up finaliste parmi les 10 sélectionnées par notre panel d'experts chez Desjardins Entreprises. Je vous rappelle que jusqu'au 4 juin prochain, vous allez pouvoir voter en ligne pour le projet de votre choix qui va mériter une formation bootcamp à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Et les dérangeants vont eux aussi choisir un gagnant. Alors, notre projet du jour, Alex?
Aujourd'hui, on vous présente une start-up qui s'appelle Eugéria. On écoute sa présidente et cofondatrice, Valérie Larochelle.
Si vous aidez une personne aux prises avec la maladie d'Alzheimer, visitez Eugéria. Eugéria, c'est la référence pour trouver des solutions à la perte de mémoire. Vous trouverez sur la plateforme des produits innovants et technologiques venant des quatre coins du monde, ainsi que des services. Vous pourrez, par exemple, sécuriser le domicile, briser l'isolement, divertir votre proche, ainsi que trouver les ressources dans votre quartier pour vous aider. Peu importe le stade de la maladie, Eugéria vous aide à prendre action. Visitez-nous à eugéria.ca.
Ça suscite la curiosité, je trouve, vos commentaires.
Écoute, moi, je trouve que c'était très bien. on sait c'est quoi l'entreprise, on sait c'est qui sa clientèle cible, on sait qu'est-ce qu'elle offre aussi.
Je trouve ça super cool d'entendre une entreprise sociale comme celle-là. Je pense qu'il y a vraiment un besoin qui est là, surtout avec les baby booms. Dans le fond, ça s'en va vraiment vieillissant. C'est une maladie, bien malheureusement, qui fait des vagues. Donc, j'ai trouvé la présentation super cool.
Noah?
Moi, j'avais trois grands-parents qui ont souffert de l'Alzheimer's et c'était vachement difficile, pas juste pour eux, mais pour toute la famille. Alors, le plus d'outils où on peut avoir accès pour vraiment faciliter cette expérience, j'ai envie de le voir.
Et je trouvais intéressant le ton du pitch aussi, qui était en quelque part en respect avec la mission de l'entreprise. Tu sais, c'était pas trop
c'était
vendeur.
Pas un party,
non, c'est ça exactement. Je trouvais ça bien intéressant. Alors, je vous rappelle donc qu'il s'agit de Valérie Larochelle, qui est présidente et co-fondatrice de Eugéria. Pour découvrir nos 9 autres finalistes, en fait nos 10 finalistes au grand total, ben je vous invite à vous rendre sur lesdérangeants.com/vente-à-salade.
Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Pour encourager le projet finaliste de ton choix, vote avant le 4 juin 2019 sur lesdérangeants.com/vente-à-salade.
Les dérangeants!
Les dérangeants.
Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
C'est maintenant l'heure de notre traditionnel débat. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un débat, mais en tout cas, vous allez à tout le moins pouvoir m'éclairer. Vous aviez envie de parler des bâtisseurs d'entreprise versus ce qu'on appelle les repreneurs d'entreprise. Y a-t-il un degré d'implication qui est différent quelque part quand tu pars ton entreprise à zéro plutôt que quand tu l'achètes? Ou
Je pense que les défis sont de même proportion, sont juste très différents. T'sais, quand tu pars une entreprise, souvent, tu vas être seul, tu vas tout exécuter. Par contre, quand tu reprends une entreprise, puis là, peut-être Marie va pouvoir nous en parler plus, mais tu dois maintenir l'entreprise en vie. T'sais, tu l'as achetée, puis il faut que tu la gardes en opération, il faut que tu gardes les employés satisfaits. Mm-hmm. Ça, c'est pas évident, là.
Mais dans le fond, ça, c'est la culture d'entreprise, là. T'sais, moi, c'est sûr que j'ai fait un rachat familial, mais autant je vois des fois des tierces personnes qui achètent une entreprise, la culture, c'est la base. T'sais, oui, tu as les états financiers, oui, tu as les chiffres, mais qu'est-ce qui se passe dans le business? Puis le plus gros défi, c'est de rassembler tes fournisseurs, tes clients puis tes employés. Sans tes employés, ben tu sais, s'ils suivent pas, ben t'as pas de business.
Toi, donc, t'as acheté l'entreprise de tes parents, donc t'es une repreneur, entre guillemets, là. Mais est-ce que c'est parce que ça te faisait ton affaire dans la vie? Est-ce que tu disais, moi, tabarnouche, je suis pas faite pour bâtir une entreprise. J'aime mieux l'acheter en quelque part. Est-ce que ce soit à tes parents ou à quelqu'un d'autre, là?
Ben moi, je pense que c'est plus une opportunité, là. T'as une business qui est là, une business qui est en santé, qui a besoin d'une relève d'affaires. Autant, je pense que, c'est plus au gars que je pourrais en parler au niveau de la start-up. Je dis pas que moi, j'ai pas d'idée. T'sais, en ce moment, je le vois plus comme justement une opportunité que j'ai acheté une entreprise. Puis de là, maintenant, j'ai un véhicule pour me permettre de créer des idées sur le côté et d'en développer des nouvelles, donc des startups sur le côté. Mais pour moi, ça a été vraiment une question d'opportunité.
Je suis curieuse, Marie, parce que c'était une entreprise familiale, j'imagine on a quelques employés qui t'avaient connu comme une jeune fille, comme une petite fille, et tout à coup, t'es leur boss. Est-ce qu'il y avait quelques employés qui avaient la difficulté de te voir comme, hey, c'est ma patronne maintenant, je dois l'écouter, c'est plus cette jeune fille qui est venue visiter avec ses parents?
Tu sais, au début, c'était vraiment une difficulté, puis je pense que c'était moi aussi au niveau de mon leadership que j'étais même pas capable de moi-même de me reconnaître comme un leader. Encore aujourd'hui, je suis la plus jeune dans l'équipe, jusqu'à bientôt, il y a un nouveau qui rentre puis qui est plus jeune, mais sinon, j'étais encore la plus jeune. Mais dans mon contexte à moi, je suis vraiment une petite entreprise quand même. J'ai des amis, eux, qui reprennent des entreprises où est-ce que là, on parle de 200, 300, 400 employés puis qui sont plus jeunes. Mais c'est de faire ta place puis de tailler ta place. Fait que je suis pas sûre que c'est l'âge que le leadership. C'est vraiment une question de leadership.
Quand on parle de l'économie québécoise, j'ai souvent l'impression qu'on a beaucoup de respect pour ce qu'on appelle les bâtisseurs, justement. Peut-être plus que les repreneurs. Sentez-vous ça? Est-ce que c'est mieux vu dans votre milieu d'entrepreneurship, ceux qui partent leur entreprise du début là, puis qui l'amènent comme « wow ».
Mais je dirais, aujourd'hui, c'est plus trendy que d'autres choses. C'est important de savoir, au Québec, 90% des PME sont familiales. Ce sont des entreprises qui sont souvent dans les régions. Et il y avait toujours l'idée que les enfants vont reprendre l'entreprise. Mais là, on est arrivé à un point, environ 2001 jusqu'à 2015, où on a vu qu'il y avait environ 60% des entreprises, jusqu'à 10 000 entreprises québécoises, où les entrepreneurs, les propriétaires étaient prêts à prendre leur retraite, mais il y avait pas de relève. Et tous les jeunes ont dit, garde, au lieu de reprendre cette entreprise de mes parents, moi, j'ai envie de relancer ma propre entreprise. Il y a un changement de culture, il y a un intérêt de travailler plus avec les nouvelles technologies, il y a d'autres idées, il y a vraiment la différence entre
l'ancienne génération et les jeunes qui arrivent aujourd'hui, c'est un paradigme complètement différent. Alors, on est vraiment arrivé à ce point où, au lieu de reprendre l'entreprise, les gens ont dit, garde, le start-up est cool, je vais aller sur l'œil de dragon, c'est hot. Alors, je répète un peu, mais ça rend du trendy.
Quand je te coupe, mais c'est un trend qui peut être extrêmement dangereux, particulièrement pour les régions. C'est-à-dire que oui, il y a un paquet d'entreprises là qui auraient peut-être besoin d'être vendues parce que, comme tu le dis, les fondateurs veulent s'en aller à la retraite et qui pourront pas l'être. C'est problématique, ça va fermer.
Ça, c'est un problème très connu. Il y a énormément d'entreprises qui n'ont absolument pas de relève ou qui n'ont tout simplement pas de plan de relève. Donc, il y a des entreprises qui vont probablement juste carrément mourir parce que la personne sera pas en place ou aura pas personne qui va vouloir reprendre l'entreprise. Puis là, ce que ça occasionne, c'est des mises à pied, c'est des années d'investissement. Tu sais, le trend que Noah parle de l'entrepreneuriat, c'est le fun, c'est intéressant, mais en même temps, je trouve que ça amène un certain risque parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent en affaires parce qu'ils disent, moi, dans la vie, je vais être entrepreneur. Mais c'est pas un métier, entrepreneur. T'opères une business, mais tu peux pas dire je vais être entrepreneur puis bon ben je vais me trouver une idée à un moment donné puis peut-être que ça va fonctionner. C'est, je pense à entretenir un mythe qui est malsain en quoi en soi.
Mais tu penses pas qu'il y a une nécessité de renouveler les anciennes industries et de vraiment arriver avec un nouvel esprit de dire garde, moi je suis entrepreneur, je vais lancer un autre type d'entreprise pour le 21e siècle et garde les autres entreprises, je m'en fous. Il y a d'autres modèles qu'on peut regarder maintenant. Avant il y avait les fermes dans les régions, mais non, on parle plus de l'agriculture urbaine. Il y a des serres sur les toits avec Lufa Farms, il y avait Raphaël qui parlait de Sebo, tout ce qui est des produits québécois, qui sont locaux, qui sont artisanaux. Alors, on cherche d'autres solutions parce que les gens viennent vers les villes. Je pense que ce qu'on devrait promouvoir, c'est plus de l'entrepreneuriat dans les régions pour les aider à renouveler et de s'assurer que les villes ne deviennent pas des villes fantômes. Je ne sais pas si vous avez pris la rue sur le 132 récemment, mais toutes les maisons sont à vendre.
Oui.
Et c'est ridicule, ce sont des villes, régions entières qui vont disparaître.
Non, je suis d'accord avec toi, mais il y a une question de timing aussi. T'sais, Lufa Farms aujourd'hui, c'est une bonne idée, ça fonctionne, mais c'est pas ça qui va sauver toutes les fermes qu'on a besoin pour remplir les épiceries qu'on a aujourd'hui. Du moins, pas à court terme. Fait que, tu sais, si t'as une ferme qui a 50, 75 employés, puis que le fondateur décède ou prend sa retraite, puis ces gens-là perdent leur emploi, ben, je pense qu'il faudrait avoir une solution en place pour essayer
Les chiffres sont vraiment alarmants en ce moment parce que justement, les baby boom, ils partent à la retraite. Puis, il y en a beaucoup qui ils pensent qu'ils sont éternels puis ils n'ont pas planifié leur retraite. Puis, ils n'ont pas préparé la relève à ça. Des fois, ils ont des jeunes. Puis, des fois, c'est pas besoin d'être une relève familiale. Ça peut être des personnes clés.
Ouais,
des employés clés, exactement. Puis, des fois, ça peut être 4 employés clés ensemble qui disent, ben, regarde, nous, on va le faire. Puis, moi, je connais une super belle entreprise de Gaspé que c'est ce qu'ils ont fait. C'est 4 personnes qui ont pris la relève d'une personne, mais ça a été planifié. Puis c'est une super de belle réussite. C'est une belle entreprise québécoise. Puis c'est gros, là, c'est plusieurs millions de dollars. Puis on a besoin, tu sais, ils font des bateaux. On a besoin de bateaux, là, ça ne changera pas. Là. Oui, la technologie, c'est une chose, là, mais on continue à avoir besoin de bateaux. On continue à avoir besoin d'imprimerie. Tu sais, ça change, ça se modifie. Puis je pense que c'est juste d'emmener un aspect technologique dans ces entreprises-là. Je pense que de partir quelque chose, il y a quelque chose de stimulant là-dedans parce que, tu sais, c'est ton âme, c'est ton ADN au sein de l'entreprise. Tandis que reprendre, c'est de te faire imposer peut-être une autre ADN. Fait que c'est dans le temps, c'est de donner le défi de changer cet ADN-là puis de l'emmener peut-être plus à ta main. Puis ça, c'est un gros défi.
Ouais, puis jour 1 aussi, quand tu reprends une entreprise, ben, tu pars à courir là. Oui. Tu peux pas dire, je prends mon temps, je vais impliquer dans tes valeurs. Non, la business, ça roule, il faut que ça continue. Puis jeudi, il y a une paye qui s'en vient, puis il y a les commandes qui rentrent pas, il faut que ça sorte. Je pense que c'est carrément un autre défi, là.
Quand je vous entends parler, est-ce que quelqu'un, mettons, qui est un bâtisseur, doit peut-être être un peu plus patient avant de pouvoir voir la couleur de l'argent de ses investissements, alors qu'un repreneur, il y a peut-être moyen de faire un peu plus de cash plus rapidement?
Je pense pas que c'est une question de cash. Moi, je m'identifie comme une bâtisseur. J'adore bâtir des projets, des start-up. Même ce qu'on offre comme service, c'est de bâtir des programmes pour nos clients. Et je trippe là-dessus, mais le cash peut venir avec notre service. C'est pas comme je dois regarder 5 ans dans l'avenir avant que je vois mon premier dollar. Je reçois un salaire, je vis assez bien, je suis confortable dans la vie. Et je pense que si j'en rentrais dans une entreprise aujourd'hui, quelque chose que j'ai acheté, ben j'aurais une stress de cash flow dès jour 1. Comme Alex avait dit, je vais commencer tout de suite. Il y a la stress qui existe depuis jour 1. Et l'autre chose, c'est moi, je peux créer la culture de mon entreprise. De rentrer dans une entreprise et d'avoir besoin de modifier ou s'adapter à un nouvel entrepreneur, de changer une façon de faire, ça peut être très disruptif. Et ça, elle-même peut causer des problèmes dans l'entreprise.
Là, quand t'es bâtisseur, tu dis, garde, j'essaie des choses, je travaille sur certaines itérations et on va trouver le bon fit, mais j'ai le temps à mettre en place ce type de culture, ce type d'identité qu'on veut avoir. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important dans un
projet. Mais dans le fond, le risque est différent, puis c'est savoir c'est quoi le risque que toi, t'es capable de prendre. Tu sais, de dire, moi, je pars quelque chose, je pars de rien, je mange des sandwichs avec, mm-hmm. pas à crème glacée, là, mais...
sandwich, pas de crème glacée.
Au beurre de peanuts.
C'est le printemps.
Puis, ça me va, puis dans le fond, mon risque, c'est de soit juste avoir perdu mon temps à... J'achète une business, puis je mets tout en garantie, je suis cautionnée jusqu'au cou. Ça, c'est un autre type de risque, mais en même temps, idéalement, tu achètes une entreprise qui fonctionne bien.
Tu fais tes devoirs, là.
C'est ça, tu fasses tes devoirs, puis ça va bien aller, mais n'empêche que tu as comme la banque en arrière de toi, puis tu as un frais mensuel. En plus, faut que tu fasses du profit pour rembourser la banque dans les premières années. Fait que c'est pas vrai que tu roules sur l'or les premières années, parce que dans le fond, ce que tu te donnes pas de plus, tu le donnes à la banque, puis tu... Okay. Tu rembourses ton prix, là.
Tu sais, Pat, t'es pas si loin de la réalité. C'est comme, exemple, tout le monde en parle, OK? Si tu partais, tout le monde en parle demain matin, ça serait pas mal plus long bâtir tes codes d'écoute que si demain matin, tu remplacerais Guillaume Lepage.
Oui.
Tu sais, t'aurais un show établi. C'est la même chose pour reprendre une entreprise.
Est-ce qu'on peut faire un parallèle aussi avec l'immobilier? C'est-à-dire que souvent, on achète une maison, on fait un flip, la maison vaut beaucoup plus tout d'un coup. Est-ce qu'un repreneur peut aussi, essayer de prendre une entreprise qui est peut-être un peu tout croche, mais ici, qu'elle a du potentiel, puis bang, il fait un flip
rapidement?
Mais moi,
ça, je pense qu'il y a beaucoup de cash à faire en faisant ça. Il faut juste que tu sois un bon gestionnaire, que tu sois capable de le remonter vite, fait que tu es capable d'avoir un plan stratégique, que tu es capable de comprendre le cash flow, super important, puis d'avoir des techniques justement pour remonter ça au niveau des ratios. Mais oui, il y a quelque chose à faire là.
Tu identifies des entreprises qui sont mal en point, fait que tu payes pas cher, mais que tu sais qu'avec 2-3 coups de tournevis, ça va être une entreprise carrément différente.
Okay. Que tu peux reflipper, que tu revends, puis que moi je connais il y a des gens qui font ça, puis c'est payant là, puis c'est challengeant par exemple parce que tu es toujours dans le challenge. Mais tu sais, si tu as un talent à ça, go for it.
Il y a un paquet d'étudiants en ce moment qui nous écoutent, qui se demandent, tu sais, bon, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir acquérir mon entreprise? Est-ce qu'il y a des personnalités bâtisseurs et des personnalités repreneurs?
Mais moi, exemple, je reprendrais pas une entreprise. Fait que ma réponse
serait oui. Réponse est oui, donc. Ouais. OK, mais qu'est-ce que ça prend alors pour être un bâtisseur, selon toi?
Pour un bâtisseur, il faut que tu aies le goût de construire quelque chose. Tu aies le goût de partir un projet, puis il y a des grosses chances que ça fonctionne pas. Il faut que tu sois capable de tout donner. Mais de là à identifier les qualités différentes entre un bâtisseur et un repreneur, je pense que c'est une question de tolérance au risque. Quand j'ai fondé mon entreprise, j'ai investi à peu près 50 000 dedans. Quand Marie a acheté son entreprise, elle s'est endettée de... X centaines de milliers de dollars, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, je mettrais ma famille puis mes actifs personnels en garantie pour faire ça.
Okay.
Mais ça, c'est un choix personnel, là, rendu là, là.
Moi, je pensais qu'au début, quand j'ai acheté, j'étais comme, ah, moi, je suis une bonne gestionnaire. Moi, je...
T'avais quel âge, déjà?
26 ans.
Ah, une king, tu connaissais tout.
Non, non, mais tu sais, justement, j'étais comme, ah, je suis une gestionnaire. Moi, je suis pas une entrepreneur. J'étais vraiment persuadée que ça. Puis, rapidement, je me suis rendu compte que, ah, non, finalement, je suis une entrepreneur aussi. Pas juste une bonne gestionnaire parce que l'entreprise vit toujours des défis. Fait que le côté entrepreneurial, faut que tu le développes, puis tu le développes vite. Vraiment.
Eh bien, c'est ça. Et c'était le sens de ma prochaine question. Tu y réponds quasiment. Est-ce qu'en ce sens-là, quand tu es un bâtisseur, ça te donne pas l'occasion d'apprendre un peu plus à ton rythme?
Je pense pas parce que, quand même, tu commences sans salaire, sans rien. Alors, faut trouver une solution. Il y avait notre invité qui avait dit que, garde, je travaille dans un bar 3 jours de la semaine pour payer les factures dans les premières années. Alors, il y a un stress. Faut travailler extrêmement fort. You know, moi, j'étais toujours de l'avis que il y a des personnes qui ont des bons instincts entrepreneuriales, mais on devient entrepreneur en passant à l'action de soit bâtisser une entreprise, de reprendre une entreprise. On prend ce profil. On devient l'entrepreneur à un certain moment. Et c'est grâce à une expérience et un partage d'une culture entrepreneuriale aussi.
Quand tu bâtis, tu sets plus le pace, si on veut, que quand tu reprends.
Okay, ouais, puis je trouve que souvent, on entend, moi, je vendais la limonade quand j'avais 12 ans, puis je faisais du porte-à-porte, puis tu sais, on voyait déjà être entrepreneur. Moi, j'ai jamais été de même. Puis tu sais, qu'on avait reçu Robert Dothun, puis qui disait, hey, moi, je me voyais vraiment pas entrepreneur. Moi, j'étais capable de vraiment me voir en lui, parce que non, moi, à 20 ans, j'étais super gênée, décrocher le téléphone. J'étais vraiment comme Robert Dothun. C'est pour dire que ça se développe. Moi, je pense que, oui, il y en a que c'est plus facile, ils naissent de même, mais pour d'autres, que je pense que ça peut se développer.
Est-ce que quelqu'un avait acheté ton stand de lemonade? Est-ce que tu as fait un exit?
Eh non, moi, je me cachais en arrière de ma mère.
As-tu travaillé pour l'entreprise familiale avant de la racheter?
Oui, oui. Puis ça, c'est un point aussi important. Je pense que quelqu'un qui part, tu pars tout seul. T'sais, tu peux avoir des associés et tout ça, mais tu apprends au fur et à mesure. Quand tu achètes, tu n'es pas tout seul. Tu as déjà quand même la structure. Tu as déjà le comptable qui est là. Tu as la personne à qui tu achètes, dans le fond, celui le cédant, qui est encore là, qui peut encore quand même te diriger, qui peut servir de mentor. Fait qu'il y a ça aussi. Je pense que tu n'es pas tout seul. Fait que pour quelqu'un qui a besoin d'un petit peu plus d'encadrement, je pense que c'est une première façon d'acheter. Puis après ça, si tu veux, ben, pars d'autres choses que tu vas avoir appris en arrière.
Je conclue avec ça. On a avec nous donc une repreneur, deux bâtisseurs. Marie-Claude, tiens, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut reprendre une entreprise, le premier conseil que tu aurais donné à cette personne-là, ce serait quoi?
Arrêtez-vous pas la première entreprise que vous voyez. T'sais, faites vraiment le tour, promenez-vous, renseignez-vous. Vraiment, là, oui, il y a les papiers, mettons le bilan, mais fouillez, parce que des squelettes dans le placard, il y en a. Puis vérifiez auprès des employés. Niveau de bonheur, le niveau, la culture d'entreprise. Appelez des clients si vous pouvez, des fournisseurs. Des fois, ça dépend avec les contrats et tout ça. Mais allez chercher le plus d'informations possible.
Alex, comme bâtisseur, qu'est-ce que tu es, et Noah aussi, bien sûr, là, qu'est-ce que vous suggéreriez à quelqu'un qui veut partir, bâtir son entreprise?
N'ayez pas peur de vous planter. Lancez-vous, faites ce que vous avez à faire, essayez vos idées, mais c'est. Il n'y a pas de mauvais conseils à donner. C'est juste si tu veux bâtir une entreprise, fais-le, c'est tout. Mais. Attends-toi à avoir des petits moments de solitude, mais ça, on a un autre épisode là-dessus.
Et je dirais que les meilleures entreprises sont bâties sur des fondations solides. Alors, prends le temps de vraiment bien placer tes fondations.
Excellent. Alex, Noah et Marie-Claude, merci beaucoup. Encore une fois, ça a été super intéressant.
Merci à toi, Pat.
On nous fait un beau 10e podcast avec nos dérangeants favoris. Merci encore.
C'est comme notre 10e anniversaire, Pat.
C'est ça. La semaine prochaine, c'est le 11e podcast, vous l'aurez compris. On va se parler cash flow, entre autres, et on va recevoir la fondatrice de Miss Fresh, Marie-Ève Provost. Merci beaucoup, tout le monde. On se retrouve dans, j'ai dit la semaine prochaine, dans deux semaines. Merci.
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
Les dérangeurs!